Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. En allumant votre poste, vous avez pris place à bord d'un vaisseau effrayant qui sillonne la galaxie littéraire. Notre mission du dimanche, aspirer les classiques dans un trou noir et les réduire en poudre d'étoiles. Vous écoutez Livre et Châtiment, la supernova des ondes. Petite métaphore spatiale, tout en subtilité. Dans l'équipage de ce vaisseau, celle qui a la voix lactée, mais dont les mots sont des boules de feu qui anéantiront votre vertu. Bonjour Constance.
Bonjour Clara, mon capitaine de soucoupe, et je ne parle pas de la soutasse.
Avec nous, celle qui a un faible pour les baroudeurs de l'espace. Elle a trois chats qu'elle a appelés Albator, Capitaine Flamme et Thomas Pesquet. Bonjour Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
Et enfin, la créature de l'espace sur laquelle les astronomes se sont cassés les dents et les fantasmes. Mi-nymphe, mi-étoile de la mort. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour Clara.
Le classique que nous allons mettre en orbite aujourd'hui, vous allez devoir le deviner. À la façon de Question pour un champion, car il paraît que même les martiens y jouent. Julien Lepers est connu dans l'infini et au-delà. Attention, êtes-vous prête ?
Oui.
Oui. On y va. Je suis écrit en pleine guerre, en 1942, mais je serai publié en France après la mort de mon papa, l'auteur. Je raconte l'histoire d'un pilote qui crache son avion dans le désert et qui tombe sur un petit garçon blond, un farfadet calme, un poil flippant, qui prononce cette phrase célébrissime « Dessine-moi un mouton ». Ce garçonnet vivait sur l'astéroïde B612 avec des volcans, des baobabs et une rose. Il a erré de planète en planète, croisant un roi esseulé, un ivrogne, un businessman ou un allumeur de réverbères. Et sur Terre, il se lie d'amitié avec un renard, papote avec un serpent dangereux, trouve un puits et donc trouve aussi ce pilote avant de revenir sur son astéroïde. Le pilote impuissant le laisse partir, gardant à jamais le cœur griffé de ce petit bonhomme blond. Je suis...
Le petit prince.
Oh, ben voilà.
Livre et Châtiment. Clara Dupont-Monod sur France Inter.
Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry a été traduit dans 400 langues, un record. Et c'est le deuxième livre le plus vendu dans le monde après la Bible. On célèbre cette année d'ailleurs les 75 ans de sa parution française. Alors certains éléments ont épaissi l'adoration qu'on lui porte. Ainsi, Saint-Exupéry est mort le 31 juillet 1944 aux commandes de son avion englouti au large de Marseille. Or, on a retrouvé les décombres de son appareil uniquement au début des années 2000. L'imagination adorant les vides, puisqu'elle les comble, s'était pliée. Saint-Exupéry a disparu dans le ciel, comme le Petit Prince, naissance d'un mythe. Celui qui va guider notre vol, notre Monsieur Spock de Star Trek à nous, hein, qui sommes de vulgaires vulcains, est un auteur-dessinateur, un artiste complet, qui a, entre autres, adapté Le Petit Prince en bande dessinée. Alors, il faut savoir que Saint-Exupéry avait fait paraître Le Petit Prince illustré de ses propres aquarelles et que notre invité s'est dit « Non !» Non, je vais l'illustrer moi, ce sera vachement mieux. Le résultat est éblouissant, il est paru chez Gallimard en 2008. Et bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Alors pourquoi aimez-vous Le Petit Prince ?
Moi j'aime bien les mythes qu'on a en commun. C'est pas le point commun entre Gainsbourg et Le Petit Prince, c'est que chacun a un souvenir avec. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de savoir si j'aime ça ou pas, c'est de savoir si ça fait partie du patrimoine commun et si je vais pouvoir créer un espace de dialogue avec cette œuvre.
Et comment l'avez-vous rencontré, ce Petit Prince ? À quel moment il arrive dans votre vie, le livre ?
Mon histoire à moi, ça va être moins marrant que le reste de l'émission. Mon grand-père a essayé de m'expliquer la mort, en fait, tout simplement, et le moment où on apprivoise un être, le moment où on disparaît, à ma connaissance, c'est le seul livre... Les livres pour enfants adorent les orphelins. Par exemple, dans Harry Potter, tout le monde est orphelin, mais on sent bien que l'autrice non, et on sent bien qu'elle pense que c'est un élément amusant de l'histoire. Dans Le Petit Prince, c'est le seul livre lisible par des gosses où l'idée du deuil est traitée. Et je trouve que c'est traité de manière très juste, en fait.
Et vous nous liriez votre passage préféré ?
Oui, parce que je le trouve beaucoup plus conflictuel que ce qu'on dit souvent. « Adieu, dit le renard, voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Je trouve ce passage beaucoup plus compliqué qu'on le dit, assez contradictoire, assez compliqué. Il y a des gens qui parlent de male gaze. Là, on apprend à ce petit garçon que la personne qu'il aime est importante parce qu'il l'aime.
Et ça veut dire quoi, male gaze?
Vous savez, quand on regarde une personne et qu'elle a de la valeur parce que c'est le regard de la personne qui désire, mais la personne... Oh, c'est pas moi qui veux vous expliquer les concepts du féminisme contemporain, quand même.
Ah ouais, moi, je suis, bah,
non, mais c'est une vraie question.
Oui, oui, oui.
La personne que tu aimes devient importante pour le temps que t'as investi dans machin. Vous imaginez un serial killer qui passerait du temps à préparer son coup, qui passerait son temps à découper la personne en morceaux, à la faire cuire. C'est le temps que tu as passé à cuisiner le cadavre de cette personne qui la rend importante à Dieu. C'est très intéressant parce que d'un côté c'est très très beau et de l'autre côté on voit pas à quel endroit on apprend à cet enfant à se mettre à la place des autres. Moi ça me passionne. Je trouve vraiment très très bien parce que j'ai toujours eu tendance à tout mythifier. C'est normal parce que j'aime le religieux, j'aime le... et tout ça, mais il y a un moment où il faut laisser une place. Moi, j'aimerais bien savoir si cette rose était aussi casse-pied dans la vie que dans le récit. Et ça m'intéresse. La place de la rose m'intéresse dans ce récit.
Merci Johann Svaar. Alors, est-ce que tout le monde a autant décollé avec Le Petit Prince, Cécile Coulon?
Moi, je trouve que ce livre, c'est crise existentielle sur crise existentielle une fois qu'on l'a lu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page où il n'y a pas une grande vérité sur la vie. On se dit, merde, mais j'ai tout raté, j'ai rien compris à l'amour, j'ai rien compris au voyage, je me nourris pas bien, j'aime pas les renards alors qu'ils sont hyper sympas. Donc, d'un côté, je trouve ça assez sublime, assez beau. Et de l'autre, j'ai vraiment lu ça. À chaque fois qu'il parle, Le Petit Prince, on a l'impression que c'est un type ivre qui vous parle, quoi. Il parle comme quelqu'un que vous croisez à 4h du mat, devant le métro. Et la porte n'est pas ouverte, quoi. Donc, c'est marrant, mais grosse crise derrière.
Liliane Roudière.
Tu nous donneras tes adresses.
Liliane Roudière, est-ce que vous avez aimé Le Petit Prince?
Je l'ai lu à 16 ans, j'ai cru découvrir l'eau chaude, pas l'eau tiède, l'eau chaude, vraiment. J'ai pensé que c'était... J'avais tout compris. On a fait du théâtre, monter des pièces. Et puis ensuite, je l'ai lu à ma fille. Et il y a très peu de temps, elle m'a dit comment tu m'as saoulée avec ce livre. Donc, et je pense que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu la BD à ce moment-là, parce qu'on n'a pas été sur la même longueur d'onde.
Et vous, Constance?
Bien, chère Clara, je vous remercie pour tous ces auteurs que vous me faites découvrir, parce que à chaque fois que je lis un livre, je me rends compte que je suis quelqu'un qui va bien. Vraiment, je dis, ils sont tous au fond du seau et ça me rassure. Et vous, Clara?
Alors moi, avant de le relire, Le Petit Prince, il m'énervait un peu parce que je voyais beaucoup ce texte comme une fabrique à slogans. Bon, évidemment, dessine-moi un mouton qui est même devenu une marque déposée, ou celle que vous avez citée, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pour moi, c'était un peu une phrase de mug. C'est une phrase qu'on voit sur les tasses, sur les t-shirts. Et après, il se trouve que c'est pas dans Le Petit Prince, mais vraiment, ça me sort par les yeux. C'est une phrase qu'a prononcée Saint-Exupéry, qu'on entend dans tous les mariages et que je déteste, qui est « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et c'est une phrase d'entreprise. Non mais sincèrement, qui regarde ensemble dans la même direction, c'est une team de bureau. Et heureusement que Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Stone et Chardin, ils se sont regardés l'un l'autre parce que ça a donné des chefs-d'œuvre. Non mais cette réticence phrasique mise à part, moi je m'incline après l'avoir relu. C'est qu'on ne peut que chavirer pour l'originalité et la poésie de ce petit prince qui en plus vieillit bien, mais ça on va en reparler avec vous. Allez, on démarre le voyage, on embarque dans cette jolie navette blonde, la Constantia Galactica, direction la planète des premières phrases. Attachez vos ceintures, Johann Svaar, c'est Constance qui dissèque la première phrase du petit prince.
Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Avant d'aller plus loin, petite parenthèse, lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois. Le « une fois » ne signifie pas que l'auteur est belge. Fin de la parenthèse. Donc, lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Eh bien moi, Antoine, tu permets que je t'appelle Antoine? Je prends ce silence de personne décédée pour un oui. Lorsque j'avais 6 ans, une fois, un monsieur m'a montré son zboubi à la sortie de l'école. Pourquoi je vous raconte ça? Pardon, je me suis trompée d'anecdote. Voilà. Lorsque j'avais 6 ans, ma maman me lisait ton histoire de petit prince voyageur curieux, un chouillon kikinant, en attendant que le marchand de sable daigne passer. Et pour te dire la vérité, je trouvais ton histoire un petit peu ennuyeuse, compliquée. Mais comme ma maman avait l'air de trouver ça beau et profond, je faisais semblant de trouver ça beau et profond pour ne pas la décevoir. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me suis replongée dans ton histoire de petit blondinet royaliste venu d'une autre planète et tenant des propos de tuffeur relou sous LSD. Et je n'ai pas trouvé ça ennuyeux ni compliqué, j'ai trouvé ça triste, mais triste ! Oh la vache ! Au bout du bout, mon Antoine ! S'il te plaît, dessine-moi un mouton, s'il te plaît, dessine-moi un cafard de 10 mètres ! Non mais, quand on traîne une mélancolie comme ça, on finit par sombrer, par couler. Ah bah autant pour moi, c'est comme ça que tu as terminé avec ton avion, mon Antoine. Quel humoriste la vie. Alors, quand tu parles d'une magnifique image de la forêt vierge, on sent bien que cette terre à terre que tu essayais de fuir par avion ou par imagination n'a pas été ta destination favorite. Mais d'ailleurs, tout être humain doté d'un minimum de sensibilité est à la recherche, comme toi, de cette forêt vierge, de cette magnifique image susceptible de l'aider à amortir les coups de pelle répétitifs de la réalité dans nos petites gueules. Parce qu'on est d'accord que cette vie, on nous la vend quand on est petit comme sucrée, on nous la promet fruitée, alors que le chewing-gum de l'existence pique et a clairement un goût d'anus. Tu vois Antoine, moi aussi je sais faire des phrases qu'on va apprendre par cœur au cours de yoga. Chacun ses armes pour rester digne en attendant de crever. L'humour, le déni, la poésie, la chasse à la palombe, le tuning, les brocantes le dimanche ou écrire un livre pour les enfants. Mais le problème avec ton bouquin Antoine, c'est pas que le gamin soit taré, c'est pas que toutes les planètes qu'il visite soient finalement invivables, c'est pas qu'une fois arrivé sur Terre il se suicide, non. C'est qu'une fois qu'on a lu ton bouquin, on ne peut plus s'en débarrasser. Il nous colle au cul comme une bonne vieille mycose. Et le pire, c'est que c'est contagieux. Les gens atteints offrent le bouquin à de pauvres innocents en leur disant d'un air mystérieux « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Bah moi, ce que je vois, c'est que tout le monde a beaucoup trop bu autour de cette table et que l'alcool triste, c'est pas beau devant les gosses.
Voilà, merci Constance. Alors, Joanne Sfar, on l'a entendu avec la première phrase de Constance. Ce livre commence donc par « je » et non pas par « il ». C'est-à-dire que Saint-Exupéry prend la parole. Est-ce que c'est parce qu'il parle de lui ? Est-ce qu'il aurait pu dire « le petit prince, c'est moi » ?
Certainement pas. Je crois que les blagues qu'on a envie de faire sur le petit prince, parce qu'on sent bien qu'on désacralise, Jouvet aurait dit ce sont des graffitis au bas d'un monument. On parle d'une révélation christique, ça me va bien en tant que juif d'Algérie de dire ça. On est sur un bouquin sur lequel on a envie de faire les mêmes blagues que quand on est au catéchisme. C'est-à-dire que le petit prince, c'est un ange, il y a une révélation, il y a cet aviateur de la génération des Mermoz et autres qui ont vu crever tous leurs copains, donc ils ont un jeu avec la vie, ils ont un jeu avec le risque de crever. Et évidemment, pour nous, c'est une boîte à vannes parce que ce sérieux-là, on a l'habitude de l'entendre qu'au catéchisme. Mais ça explique qu'au Japon, par exemple, on lit Le Petit Prince comme un livre, vous avez raison, de maxime de sagesse pour adultes, parce que peut-être, moi, je préfère qu'ils lisent ça plutôt que Castaneda, enfin, j'en sais rien. Mais il y a, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sacré qui atteint un livre quand un certain nombre de lecteurs l'ont acheté, l'ont lu, l'ont transmis. La question, c'est plus de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est que ça fait partie du patrimoine, oui, religieux qu'on se transmet.
Joanne Sfar, Cécile Coulon, ici présente, adjudante de ce vaisseau en charge des unions interstellaires, car ça existe, imagine chaque dimanche l'annonce Tinder qu'aurait pu écrire le personnage principal du classique littéraire. Alors là, comme il s'agit d'un enfant et que nous n'aimons pas la prison, eh ben Cécile s'est débrouillée autrement.
Oui, parce que faire le portrait Tinder d'un enfant, c'est un peu limite. On est sur France Inter le dimanche, on n'est pas sur le blog de l'association des amis de Gabriel Matzneff, ou alors je suis pas au courant. En revanche, le lien, que dis-je, le pont, le viaduc entre le livre et les sites de rencontres actuels, c'est justement la galerie de personnages que ce drôle de petit bonhomme rencontre pendant ses voyages à travers les planètes. Disons-le franchement, Antoine de Saint-Exupéry a préfiguré Tinder. Son héros, un gosse blond sapé comme un Bee Gees au milieu du désert. Ce gosse blond fait le tour des mentalités adultes qu'il a croisées. C'est pas joli joli, tout le monde est dans le fond de la saucisse, ça sent la déprime, le Xanax et l'obsession morbide. Déjà dans l'univers de Saint-Exupéry, il n'y a pas de personnage féminin. Le Petit Prince ne rencontre que des hommes et des animaux. On est en 1943, les femmes n'ont rien à faire dans les contes pour enfants, elles ont plein d'autres trucs à faire. Quoi par exemple? Ah oui, des enfants. Ok boomer, revenons à nos moutons. Nos moutons. Wow, wow, wow! Dessine-moi un navarin, un aviateur et que ça saute. Voilà donc à quoi ressemblent les profils croisés par le David Bowie d'1m20. Un comptable d'étoiles, un businessman en burn-out, un allumeur de réverbères, un vieux monsieur qui écrit de très 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 gros livres, Jean-Dor Messon si vous êtes là, ululé, un Fennec qui fait des leçons de bien-être, Christophe André à côté c'est un forum d'Octissimo, l'aviateur qui ne pense qu'à une chose, réparer son avion, et un serpent qui parle par énigme, j'ai lu le passage, j'ai cru entendre Marguerite Duras. Bref, personne ne va bien, tout le monde est omnubilé par les chiffres, par le temps, par l'argent, lire Le Petit Prince, c'est vraiment mélanger LinkedIn, Tinder et le forum questions-réponses des abonnés à Okapi. Heureusement, ce petit prince, lui, a tout compris. Il est épris d'une fleur, d'une rose, restée sur sa planète. Alors faites comme lui, aimez les fleurs plutôt que Tinder, même si les roses sont périssables. Vous en trouverez bien une comme celle du petit prince, décoiffée et pas très modeste, mais si émouvante et unique au monde.
Merci Cécile Coulon. Alors Joanne Sfar, dans Le Petit Prince, il y a un personnage parmi ceux qu'a cité Cécile, qu'elle appelle le Fennec, mais qui est celui du renard. Alors on est très très loin du goupil un peu voyou hein, du roman de renard par exemple, ce magnifique conte médiéval, c'est aussi un conte. On est là avec un animal qui est un amoureux fou du rituel. Parce que ce renard, il fait l'éloge de la lenteur, de la ritualisation d'une rencontre, c'est même un peu l'anti-Tinder. Quel rôle joue exactement ce renard dans Le Petit Prince?
C'est très beau. Moi, j'ai pas eu d'animaux quand j'étais petit. Je me rappelle quand j'essayais de m'approcher des chats et que je savais pas comment faire pour qu'ils deviennent mes copains. Dans un monde plus proche, j'ai un petit garçon qui a 18 mois et qui est né sous confinement, donc il a pas vu beaucoup d'autres bébés. Et quand je l'emmène au jardin, il veut être copain avec les autres gamins, mais il sait pas comment faire. Alors il s'approche, il rentre dedans, il en marche sur les pieds, tout ça. Et le moment où on explique à, pour le coup, parce qu'il y a très peu de passages vraiment pour enfants dans Le Petit Prince. Saint-Exupéry, il sait pas ce que c'est un enfant, il écrit la Bible. Ce passage, il est vraiment pour enfants. Quand on dit, tu vas aller tous les matins, et à la même heure, et le renard va venir, et petit à petit, c'est comme ça qu'on apprivoise un chat, c'est comme ça que, par exemple, si vous rencontrez mon chien qui est très méchant, il va essayer de vous mordre, si vous venez au bout de 35 fois à la maison, il essaiera plus de vous mordre, voilà, donc ici, l'essentiel est invisible. Ça, moi, ce passage, je le trouve très joli, et je le trouve, à mes yeux, c'est le seul qui est authentiquement enfantin, de ça, et l'ouverture sur le chapeau qui, en fait, est un serpent qui a bouffé un éléphant. Ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que il a beau dire l'essentiel est invisible pour les yeux. Si on aime son livre, c'est parce que l'entrée se fait par un dessin et l'entrée se fait par un dessin qui est expliqué comme un gamin ferait à partir de son dessin. C'est qu'il faut jamais dire à un gosse ton dessin est beau, ton dessin est moche, ça les gosses s'en foutent. Faut leur dire qu'est-ce que t'as voulu faire. Là, tu dis j'ai voulu faire une princesse avec des orteils, c'est pas des dentelles, c'est des... Bon, c'est bon, j'écoute plus. Mais voilà. Et qui se glisse sous la porte.
d'amour. Changer de vie, changer de jour.
Comme un avion sans aile de Charles-Élie Couture.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Monod sur France Inter.
Il savait dessiner très bien. Alors une fois que le petit prince a commencé, il allait dessiner chez tous ses amis. Et il arrivait joyeux, il me dit, une certaine tournure de mon livre, est-ce qu'il te plaît? Et alors, cette livre aurait 1000 pages, mais mon mari déchirait 40 pages pour garder une.
Consuelo de Saint-Exupéry, la femme d'Antoine, interrogée en 1964. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui fonce à la vitesse d'un astéroïde énervé contre les classiques littéraires, en particulier Le Petit Prince de Saint-Exupéry, un des romans les plus vendus dans le monde, qui raconte le périple d'un petit bonhomme blond, ainsi que son amitié avec un pilote égaré. Ma météorite préférée, c'est Constance. Et avec nous, Constance ?
Oui, notre papillon de lumière, Liliane Roudière, est là. Cécile Coulon, notre phare de Punto dans la nuit, est là également. Et Johan Sfar, notre avion volant, est là.
Voilà, ça s'appelle un tour de table réussi, moi je dis. Alors Cécile Coulon, durant le disque de Charles-Élie Couture, vous avez posé une question à Johan Sfar.
Mais Johan Sfar a quitté le studio. Non, en fait c'est une question sur le fait qu'on voit le petit prince à travers les yeux de l'aviateur. Sauf que dans le livre, l'âge du petit prince n'est jamais mentionné. On sait juste que l'aviateur a l'impression que c'est un enfant. Est-ce qu'on peut croire que le petit prince n'est pas un petit prince, mais simplement un prince? Est-ce que ce serait possible, ça?
Je crois que c'est plus que ça. Je crois que c'est un ange. Enfin, c'est vraiment l'histoire d'une révélation. Il est au désert, l'aviateur, comme les saints dans les récits. Il a une panne, il y a un truc qui est arrêté, et il y a une visitation, et il y a une créature céleste qui lui raconte quelque chose. Et d'ailleurs, cette créature va disparaître ensuite par l'effet du serpent. Enfin, si là on n'est pas dans l'histoire sainte, je sais pas où on est. Et ce qui m'a permis de le dessiner en bande dessinée, j'ai été de mauvaise foi, c'est que lui, il écrit qu'il le dessine comme il le voit. Donc, c'est un dessin d'après nature de cette créature par Antoine de Saint-Exupéry. Et moi, je me suis dit, non, mais en vrai, il était comment? Donc, j'ai essayé de fabriquer un ange.
En parlant d'ange, on se tourne vers le nôtre. Constance, reprenez les manettes et gardez le micro. Si le petit prince, Constance, avait une bande-annonce, quelle serait-elle?
Il était une fois... Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, l'histoire extraordinaire d'un petit enfant désorienté, perdu dans le désert, qui vient briser les couilles d'un aventurier qui voudrait lui réparer son avion.
Ah, j'en étais sûre, c'est encore un joint de culasse.
S'il te plaît, dessine-moi un mouton.
Ah, qu'est-ce que c'est ce môme, hein? Et qu'est-ce que tu fous dans le désert, gamin? À mon avis, plutôt que de dessiner un méchoui, on ferait mieux de chercher de la flotte ou de la crème solaire.
S'il te plaît, dessine-moi un mouton.
Ah putain, dégage ou je te fous un coup de clé à molette dans la gueule. Il est sourd, il est con. Je vais lui dessiner un coton-tige, comme ça va lui déboucher les oreilles.
Il était une fois le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. L'histoire extraordinaire d'un dialogue entre un type seul et dépressif et un enfant bourré mythomane.
Et j'ai profité d'une migration d'oiseaux sauvages pour voyager dans l'espace. Avant d'arriver ici, j'ai rencontré un businessman, un roi, une rose, un allumeur de réverbère. Et même moi, je me méfie des réverbères, tu vois. Et des baobabs, carrément. Et tu sais, j'ai aussi un ami runner.
Ah, d'accord, gamin. Et du coup, t'as pas rencontré un mécano, plutôt?
Non. Mais ma planète est toute petite, tu sais. Alors, il y a des baobabs, ils risquent de la faire exploser. Du coup, il faut que je me mette à ramener mes volcans. Parce que ma rose, elle est malheureuse toute seule, tu comprends.
Il t'a tapé sur la gueule, le soleil, gamin.
Il était une fois le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, l'histoire extraordinaire d'un enfant insupportable qui va parvenir à se faire aimer. Et une fois cet objectif atteint, il se suicidera.
Bon, maintenant que j'ai réparé mon avion, dis-moi la vérité, gamin. T'as une sorte de petit poussé, t'as tellement fait chier tes parents qu'ils t'ont abandonné, hein? Ou t'es vraiment un extraterrestre?
La vérité, ce qu'il faut absolument savoir dans la vie, c'est indispensable.
Gamin? Gamin? Oh! Tu vas pas me laisser comme ça tout seul dans le désert? J'ai plein de questions maintenant dans ma tête, gamin! Eh, dis-moi à moi de quelle planète ils viennent, les frères Bogdanov?
Alors, merci, Constance. Johan Sarr, est-ce que tout va bien?
Ça va très bien.
Alors, Le Petit Prince et le livre des bandes-annonces, vous l'aurez compris, mais aussi le livre des questions faussement naïves. Exemple, qu'est-ce qu'une consigne? Ou encore, sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Ou enfin, pourquoi bois-tu ? Ça, ce sont toutes les questions qui émaillent le texte, mais vraiment, et qui sont en effet, chacune mériterait à elle seule, un essai philosophique en guise de réponse. Il se trouve que Liliane Roudière, ici présente, aime bien aussi les questions, bon, certes, un peu moins profondes et un peu plus premier degré, c'est la question qui tâche de Liliane Roudière.
Si je résume les diverses rencontres que fait le petit prince, je constate que il n'est pas attiré par le pouvoir. Il trouve le roi ridicule. Il n'a aucune velléité de boursicoter. Il déteste le businessman qui aligne des chiffres. Il n'est pas consumériste. Il découvre des milliers de roses, mais se contente de sa rose à lui. Il aime la lenteur, mais pas la rentabilité. Enfin, il a de la tendresse pour les déclassés, comme l'ivrogne. Alors, Johann Svar. Ce petit prince est-il de gauche ?
Je ne suis pas certain que le petit prince soit de gauche. Il y a beaucoup de textes dont les héros sont de gauche. Lui, c'est écrit par un gars qui n'a pas arrêté de voir crever ses copains en avion. Quand il y en a un qui survivait, toute la bande à Kessel, à tout ça, c'est des survivants. Donc le fait qu'il ait besoin de montrer la vanité des activités humaines, je ne suis pas sûr que ce soit un regard politique. Je crois que quand on a connu l'excitation des vols, parce que ce n'était pas l'ennemi qui était inquiétant, c'est son propre avion qui risquait d'exploser en permanence, toutes les activités humaines lui paraissent vaines. Il y a un souvenir de Kessel qui est formidable, où il dit, mais bon, Saint-Exupéry, on lui reprochait de casser trop d'avions par rapport à d'autres copains. Mais lui, il faisait un truc génial, c'est qu'il prenait son aéronef, il s'habillait, il mettait une djellaba, il s'habillait en prince du désert, il prenait son avion et il allait se poser sur des gros cailloux. Et là, il fumait sa pipe et ensuite il repartait. Donc c'est ce genre de gars. Et je crois qu'il était très loin du spectre politique. Voilà.
Merci, je suis soulagée.
Liliane Roudière a évoqué la figure du businessman, qui est un peu une des figures repoussoires du Petit Prince. Il y a des figures repoussoires dans ce texte. Il y a par exemple la figure du serpent, qui est très dangereux. Et puis en plus, c'est la première créature quand même que rencontre le Petit Prince sur Terre. Est-ce que pour vous, le serpent est la figure du mal ?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi le petit prince plaît tellement chez les Japonais en Extrême-Orient. Le serpent, il est accepté, il est appelé par le petit prince. C'est pas un suicide parce qu'il ne hâte pas sa mort, mais c'est le moment où il va retourner dans cette planète. C'est vraiment le cycle de la vie. C'est-à-dire que le petit prince, il est dans l'acceptation de cette chose-là. Ça, c'est la lecture positive. Ensuite, la lecture inquiétante. Tous les gens qui ont connu Saint-Exupéry ont dit c'est un type qui avait pas peur de mourir. Donc il y a un lieu de ce texte où Saint-Exupéry se confronte à sa difficulté d'avoir peur. C'est un type qui a pas peur. L'avion dans lequel il va mourir, c'est un avion qui vraiment n'est plus de son âge. C'est un avion dans lequel on prend des décharges électriques quand on est dans le costume parce qu'il y a des courts-circuits tout le temps. Et il est plus fait pour piloter cet avion. Il le prend. Je ne sais pas s'il y a une envie de mourir chez Saint-Exupéry, mais en tout cas, il y a une absence de peur qui est presque pathologique, qui peut faire les grands écrivains, mais qui relève aussi de la pathologie.
Alors, Johann Svar, dans votre bande dessinée, l'adaptation du Petit Prince de Saint-Exupéry, vous créez à un moment un personnage au tout début qui est la fumée. La fumée n'est pas dans le texte. Je mentionne cette audace pour justifier celle que s'apprête à avoir Cécile Coulon, car elle s'est demandé quel passage on pouvait sauter dans Le Petit Prince. Et oui.
Donc sujet du bac de philo ST2S, faut-il comprendre une œuvre pour l'aimer ? Alors pour ma part, je n'ai pas compris grand-chose au Petit Prince, ce qui ne m'a pas empêché de verser ma petite larme. Quel oignon ce bouquin ! Le livre est court, une centaine de pages, peu de passages à sauter, mais surtout les analyses qui suivent le texte en lui-même. On dit du Petit Prince que c'est une leçon de vie sur la créativité, sur l'âme d'enfance. D'ailleurs, la moitié des phrases prononcées par le héros sont aujourd'hui reprises sur les réseaux sociaux, sur les tasses. C'est le genre de phrase que les copains et les copines se font tatouer sur le poignet ou dans le dos. C'est bien, ça fait la lecture pendant l'amour. Mais quand même, moi j'ai fait l'expérience du texte du Petit Prince, de ses leçons dans la vraie vie. Donc je vais vous livrer ma conclusion. Ça ne marche pas du tout. J'ai transposé le passage de la rencontre avec le renard au bureau avec un collègue, Alexandre, et j'ai appliqué les consignes du renard qui nous explique ce que signifie créer des liens. Donc, vendredi, j'arrive dans mon bureau. Je dis à Alexandre que je veux l'apprivoiser. Déjà, au lieu de me répondre « qu'est-ce que cela signifie ?», il me dit « je suis pas un animal, ok ?». Donc moi, je continue et je lui explique avec les mots exacts du renard Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'une collègue semblable à 100 000 collègues. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Là, le mec se lève, lève le nez de son ordinateur, me regarde comme si je venais de faire un AVC. Il me demande si, par hasard, je suis pas en train de tester un truc pour ma chronique de France Inter. Et moi, je me débine pas et je continue. Ma vie est monotone. Je chasse les prix littéraires. Les prix littéraires me chassent. Tous les livres se ressemblent. Et tous les écrivains se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, Alexandre, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du bureau, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas le Burger King? Je ne mange pas de légumes. Les légumes sont pour moi inutiles. Les champs de patates ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais toi, tu as des cheveux couleur champs de patates. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. La patate qui est dorée me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit des dents dans les frites. Tout ça pour vous dire que maintenant j'ai un bureau pour moi toute seule. Merci Saint-Exupéry. Donc attention aux analyses qui suivent les textes classiques. La beauté, contrairement au renard, au petit prince et à mon collègue Alexandre, ne s'apprivoise pas, elle se vit.
Merci Cécile Coulon. Johann Svarr, vous avez eu le privilège de pouvoir adapter Le Petit Prince en bande dessinée. Et par exemple, vous vous êtes offert certaines audaces, vous avez collé des mamelons sur le visage du businessman. Les consignes n'étaient pas trop strictes.
J'avais pas conscience d'avoir fait ça, mais en réalité, ils ont été formidables les ayants droit. Ils m'ont dit tu peux tout changer. Mais c'est une écriture qui tient tellement sur elle-même que je crois que j'ai pas changé beaucoup de lignes au texte. J'ai fait de la mise en scène. J'ai pas voulu illustrer. C'est déjà un livre illustré. J'ai tenté de la mise en scène et j'ai essayé de donner à voir l'aviateur, puisque c'est le locuteur dans le récit. Et là, j'ai essayé d'en faire un des deux protagonistes. J'ai presque fait plus un travail de cinéaste que d'illustrateur. C'est comment on fait pour faire des cadres et pour raconter cette histoire-là. Mais moi, vous savez, quand je bosse avec des comédiens et qu'ils changent mon texte, ça m'énerve. Le vrai bon comédien, c'est celui qui va donner 20 sens différents à la même phrase par la manière dont il l'a dit. Et les auteurs qui arrivent en te disant « j'ai adapté tel texte, mais j'ai censé ceci, j'ai changé cela, parce que ça c'est un peu daté, ça c'est un peu changé. » Enfin, mais dans quel monde tu vas te mesurer à un texte qui s'est vendu à 20 millions d'exemplaires? Tu fais ton travail et c'est tout. Tu vois, je suis toujours assez perplexe quand on dit « il y a une grande œuvre, mais alors attention, moi je l'ai faite autrement. » Moi j'essaye d'être assez absent de ce genre de travail, j'essaie de rester lecteur.
Liliane Roudière.
J'ai lu que vous aviez dit que adapter Le Petit Prince a changé votre vie. Et c'était, vous aviez déjà 10-20 ans de dessin derrière vous. Pourquoi ce dessin-là, comment ça a pu changer?
Il y a un travail de mise en scène que je faisais peut-être pas sur mes propres textes, parce que d'habitude j'écris mes histoires et puis je dessine comme ça me vient. Là, c'est une écriture qui est tellement loin de moi. Enfin, je vois bien le type de récit. Quand je lis du Romain Gary ou du Albert Cohen, j'ai l'impression d'être dans mon univers. Là, il y a rien de plus loin de moi que la manière d'écrire de Saint-Exupéry. C'est très militaire, c'est très il y a moins de sauce que chez moi d'une certaine façon. Donc j'ai dû acquérir une certaine rigueur. J'ai eu l'avion, ils m'ont prêté l'avion en métal. Je suis allé au Bourget prendre des photos de l'avion en vrai. Je me suis foutu dedans. Et à chaque fois, c'était où sont les personnages, où est l'éclairage, comment ils se déplacent. C'était nouveau. Je me suis mis à prendre mon boulot un peu au sérieux. C'est écrit par un mec. Voilà, c'est ça. J'ai pris un peu mon boulot au sérieux pendant un moment, brièvement.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens. Tiens, c'est idiot. Certains, c'est que petit jeu. Non, c'est pas en rire, préférer m'éteindre.
ce petit jeu. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu. Petit, je ne joue pas.
Joker.
Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que petit jeu n'osait pas en rire, préférait me taire. Petit, je ne joue pas à ce petit jeu.
Allez, chante.
Petit jeu de Ours et M.
France Inter. Livre et châtiment.
J'ai assisté à la naissance du Petit Prince et ça s'est passé de la manière suivante. Saint-Ex était invité par son éditeur dans un beau restaurant New York avec de belles nappes blanches. Quand soudainement, l'éditeur a vu Saint-Ex faire des tas de dessins sur la nappe. Et le garçon regardait cela d'un œil très réprobateur. Et l'éditeur a dit à Saint-Ex, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, que voulez-vous? Je dessine un petit bonhomme que j'ai dans mon cœur. Mais ce petit bonhomme, pourquoi est-ce que vous n'en feriez pas une histoire pour les enfants? Et Saint-Ex m'a dit, imaginez-vous, maintenant on me demande d'écrire un livre pour les gosses.
La voix de Léon Vancelius, un bon pote de Saint-Exupéry en 1969. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui ratisse l'espace en vue de l'assaut final de ceux de Vega, comme le chantait Goldorak, et surtout en vue d'attraper l'astéroïde B612 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour m'aider dans cette traque supersonique, j'ai mon turbopropulseur à moi. Même si le risque de désintégration n'est jamais très loin, j'ai nommé Constance. Et avec nous, Constance.
Eh bien, Capitaine Clara, nous avons le bonheur de nous promener de planète mentale en planète mentale, en compagnie de Liliane Roudière, de Cécile Coulon, de Joanne Sfar. Quelle aventure! J'espère qu'on finira moins mouillé et mort qu'à la fin du Titanic.
Merci, Constance. Alors, avec le Petit Prince, on a quand même affaire à un gamin sans père ni mère, qui vit tout seul et recherche la compagnie d'un homme mûr. Bon, c'est pas qu'on travaille pour le 119 Allô Enfance en danger, enfin quand même, on a envie d'en savoir un peu plus. Je vous propose donc de l'interviewer, ce petit prince. Et qui mieux que Jacques Martin, dans l'école des fans, pour s'adresser à des enfants. Bonjour mon garçon, comment tu t'appelles ?
J'aime bien tes cheveux, on dirait un mouton.
Les enfants sont formidables. Alors dis-moi, comment tu t'appelles?
Le Petit Prince.
Ah, ben, c'est sûrement comme ça que tes copains t'appellent à l'école, mais...
Je vais pas à l'école.
Ah, tu fais le CNED? Ou l'école Montessori? Tu habites sans doute dans l'Est parisien, alors. Bon. Allez, assez taquiner tes parents. Tu as quel âge?
78 ans, mais j'ai pas de parents.
78 ans, les enfants sont formidables. Et tu n'as pas de parents, mais tu es venu avec qui alors?
Un aviateur.
Tu as voyagé en UM. Et c'est pour ça que tes parents ne sont pas là, je comprends. Il est où l'aviateur dans le public?
Siège B612. C'est le monsieur là, avec le visage plein de cambouis et une cigarette.
Ah, monsieur, il est interdit de fumer dans la salle. Même Joanne Sfar le dit dans sa BD. On ne devrait pas fumer dans un ouvrage destiné à la jeunesse. Enfin, c'est pas sérieux, monsieur.
Comment ça, c'est pas sérieux? Il y a des millions et des millions d'années que les gens fument. Et ça n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ils se donnent tant de mal à chercher des cigarettes qui ne servent à rien. Ce n'est pas sérieux de passer ses dimanches à la recherche d'un tabac ouvert. Et si je connais, moi, une clope unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf sur ma planète, et qui n'a de saveur que pour moi, une clope assortie au café du matin. Cette clope, qui était semblable à 100 000 autres, j'en ai fait mon addiction, et maintenant elle est unique. Vous avez du feu?
Les enfants sont formidables. Non, non, j'ai pas de feu. Qu'est-ce que tu vas nous chanter?
Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain.
Ah, le petit prince, les enfants sont formidables. Joanne Sfar, tout va bien? Cette fausse interview ne vous a pas trop réfrigéré?
Ça va très bien.
Alors Saint-Exupéry écrit dans sa correspondance en juillet 1943 « Je hais mon époque de toutes mes forces ». Du coup, est-ce que écrire un conte avec un petit enfant pur, un ange, hein, vous avez cité ce mot-là tout à l'heure, est-ce que c'est une façon de retrouver l'innocence perdue d'une génération qui a été piétinée par la guerre ?
Moi, je ne crois pas à ça un instant. Je crois qu'un conte n'a du succès que s'il parle du réel. Le Seigneur des Anneaux, c'est les souvenirs de Tolkien face à la guerre de 14. Quand on voit Dune de Frank Herbert, c'est les chocs pétroliers, c'est la montée de l'importance du pétrole et les guerres postcoloniales. Je ne crois pas un instant qu'un grand conte puisse parler d'autre chose que du réel.
Alors, comme dans tout vaisseau spatial, l'équipage est essentiel, hein, puisque c'est fait de bons seconds. Ah bah oui, bah on pilote pas le Faucon Millennium, le vaisseau de Star Wars, en solo, même si on s'appelle Han.
Excellent.
Han Solo. Tout ça pour dire que les personnages secondaires sont essentiels, Johann Sfar. Alors, Liliane Roudière, quel est le personnage secondaire qui mérite le devant de la scène dans Le Petit Prince ?
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
La rose est le personnage secondaire essentiel dans Le Petit Prince. Elle est souvent décrite comme l'emblème féminin de ce conte, et qui plus est un féminin futile. C'est un euphémisme de parler de préjugés. La rose est belle, roucoule, se plaint, se vante. C'est quand même peu glorieux, non ? Alors que peut-être. Peut-être que la rose symbolise autre chose. Quoi ? Eh bien la notion d'attachement. Ce lien invisible que l'on tisse jour après jour, nous dit Boris Cyrulnik. Certes, avec son étymologie, c'était pas gagné. Attachement vient du verbe estachier, en 1080, qui veut dire relié à un pieu. Et pourtant, ce pieu, c'est la rose, et au bout de la corde, le petit prince. Lorsqu'il quitte sa planète pour fuir cette fleur capricieuse, le petit prince ne sait pas encore qu'ils sont reliés l'un à l'autre. Car en effet, l'attachement ne se mesure jamais immédiatement. Le petit prince voyage de planète en planète, et ce fil invisible tendu entre lui et la rose ne casse pas. Au contraire, il tricote un manque terrible, une dépendance. Car il en est de l'attachement comme de la santé ou de la liberté. Il faut l'avoir perdu pour se rendre compte de son importance, pour réaliser que nous avions un trésor entre nos mains et nous étions aveugles. Ce trésor que le petit prince était parti chercher dans l'univers était là, sous ses yeux, sur sa toute petite planète, sous un globe, son ami la rose. Quand Le Petit Prince est publié en 1943, peu d'études ont exploré l'attachement. Beaucoup plus tard, l'attachement sera décrit comme primordial pour le développement de l'enfant, mais aussi pour chacun de nous tout au long de notre vie. Aujourd'hui, on étudie de près une hormone que fabrique notre cerveau, l'ocytocine, nommée aussi l'hormone de l'attachement et du lien social. On a constaté par exemple que la mère en inonde son enfant à l'accouchement. Il paraît qu'elle se répand aussi pendant l'orgasme ou, plus accessible en période de disette, en caressant un chat qui ronronne. Le chat du rabbin a vérifié. Encore un détail, l'attachement est un petit coquin. Il peut prendre racine en dehors de l'amour ou de l'amitié. Pensez à cette belle-mère que vous êtes sûre de détester ou à cet ex qui vous saoule. Eh bien, vous serez sans doute étonné du manque s'ils viennent à disparaître. Voilà pourquoi j'adore l'attachement, car il avance masqué, malgré nous. Le renard dans Le Petit Prince le résume très bien. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
Merci Liliane Roudière. Johann Sfar, à propos de cette rose, on a beaucoup dit qu'elle symbolisait Consuelo, la femme de Saint-Exupéry, qu'il laissait, comme le fait Le Petit Prince, pour arpenter le ciel. Est-ce que Consuelo, c'est elle la rose ?
Moi j'essaie de voir... Le texte en lui-même, il y avait un aspect angélique et religieux dans ce qu'on a évoqué au début. Là, il y a quelque chose de l'amour courtois et de la chevalerie. C'est-à-dire que le petit prince, c'est un chevalier, et Consuelo, elle lui donne des quêtes, comme les personnages féminins des récits de chevalerie. Donc, ça relève ni de la psychologie, ni de la relation humaine, c'est la quête. Et évidemment que les quêtes sont impossibles. Donc, s'il était possible de satisfaire soit Consuelo, soit la rose, l'aventure n'aurait pas lieu d'être. Donc, on bascule dans le récit de chevalerie. Ça m'intéresse. Ensuite, le motif biographique, ça, j'ai pas les informations pour en parler.
Donc, le petit prince, finalement, c'est Lancelot.
Ça devient un petit chevalier. Ça devient un petit chevalier.
Thank you.
Estoy mirando cómo ir a verte. Hay un solo camino. Es el amor, amor, amor.
Est la mort de Cannibal.
France Inter. Livre et châtiment.
Le Petit Prince était un livre qu'il tenait à écrire sur sa fleur. Sa fleur, c'était moi. C'était lui, le petit prince. Et il avait une fleur à soigner, une fleur, je suis espagnol, une fleur qui craignait les courants d'air, comme disait cette rose, tout c'est beaucoup, et me tourmentait. Alors, je me suis enfui avec des oiseaux émigrataires. C'était quand il partait pour ce grand voyage, et que je restais assez angoissée.
On dirait moi avec un accent espagnol. Consuelo de Saint-Exupéry en 1964. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui s'est crachée sur l'astéroïde B612, celle du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et bien, bien fait pour nous. Ça nous apprendra à ricaner dans nos scaphandres d'astronautes. Heureusement que cette quête spatiale a une fin. Tout comme le petit prince, je vous lis, chers auditeurs, les dernières lignes du livre de Saint-Exupéry. Attention, hors épilogue. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Fin de citation. Une fin sur une note d'enfance, comme le tout début du livre d'ailleurs, qui s'ouvre sur un souvenir d'enfance. L'enfance ouvre et clôture le petit prince. Et pourtant cette fin, malgré sa poésie, nous vous proposons de la réécrire, chers auditeurs, d'en inventer une autre. Vous imaginez ce que vous voulez. Comme le message du petit prince est assez doux et philosophique, eh bien, lâchez le punk à chien de l'espace en vous. Je ne vous souffle même pas des idées de pistes entre la rose, le renard, l'ivrogne. On peut chahuter tout ça, ou pas, c'est comme vous voulez. Seule consigne, 5 lignes maximum que vous nous envoyez avant demain, lundi 17h, à livre-et-châtiment@radiofrance.com, au singulier, tout attaché, et la meilleure fin sera lue à l'antenne par Constance, dimanche prochain. La semaine dernière, c'est la fin de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan que vous deviez réécrire. Oh, les trouvailles, l'afflux de réponses, toutes plus chouettes les unes que les autres. Vous avez écrit avec amour et sans pitié, bravo. Et la meilleure fin de Bonjour Tristesse, Constance, est attribuée à...
Hélène Cumin, j'adore son nom.
Voilà, et vous allez nous la lire.
Et me laissant porter par le doux murmure de souvenirs amers, je ferme les yeux et m'endors blottie dans le demi-noir ouaté de mes songes. Je fais souvent le même rêve. Je suis là-bas, me baigne dans les bleus et les verts de la mer. Je désire m'enfoncer sous l'eau tiède et salée pour ne plus jamais remonter. Mais je suis accompagnée par une sirène à l'air cabossé qui m'empêche de me noyer et me ramène jusqu'au rivage, du matin jusqu'au soir.
Bravo Hélène, très jolie fin, très poétique et douce. C'est pour ça que vous l'aviez aimée celle-là, Constance ?
Oui, parce que je suis un petit être sensible.
Oui, contrairement à ce qu'on croit.
C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Donc bravo Hélène Cumin. C'est très doux et très poétique, d'autant qu'on a coupé les moteurs. On flotte en apesanteur, très loin quelque part entre Saturne et Francis Lalanne. Et donc pour clore ce gravity radiophonique, je me tourne vers notre réserve d'oxygène, les libraires, avec eux on respire mieux. Et parce que la culture n'est jamais un acquis, parce que même les meilleurs s'en mêlent les pinceaux, et parce qu'un client n'est jamais à court d'idées, nous demandons chaque semaine à un libraire la question la plus farfelue entendu dans sa boutique. Nous sommes en partenariat avec la revue Page des Libraires. Cette semaine, c'est Antoine Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau que nous avons au téléphone. Bonjour Antoine.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Quelle est la question la plus farfelue entendue dans votre magasin ?
Donc une dame arrive à la librairie complètement désespérée parce qu'elle cherche une référence bien précise pour sa fille et elle me demande la métaphysique des tuyaux d'Amélie Nothomb.
Bien évidemment.
Voilà, moi je lui ai répondu gentiment que le livre en question, il s'appelait en réalité La métaphysique des tubes.
Et oui.
Et voilà. Et, par contre, elle n'en a pas démordu. Voilà, elle me dit désolé, mais moi, il faut vraiment que je ramène à ma fille La métaphysique des tuyaux. Voilà, donc, j'avais le vrai livre en stock, donc je vais lui le chercher. Et entre temps, elle avait appelé sa fille qui lui dit non, maman, la prof a bien demandé La métaphysique des tuyaux. Donc moi, en tant que libraire, je savais très bien que j'étais sûr de mon coup. Donc je dis à la maman, je dis vous le prenez. Si c'est vraiment La métaphysique des tuyaux qu'il lui fallait, et je la rembourserai sans problème. Et ben croyez-moi si vous voulez, elle a pris le livre.
Oui.
Et elle est partie avec ce livre, mais vraiment pas très convaincue.
Mais ils sont de libraires. Vous savez, Antoine nous raconte que quand ils se trompent, et malgré quand même les conseils assez insistants du libraire, ils en démordent pas.
Mais complètement.
Ouais.
Là où c'est sympa, l'histoire cocasse, elle se révèle chouette à la fin parce que la jeune fille en question, elle est repassée à la librairie quelques jours après, en me remerciant parce qu'en fait c'était vraiment le bon livre que je lui avais fourni et qu'elle avait pu faire son devoir. Et comme quoi, nous libraires, nous avons toujours des bons tuyaux pour nos lecteurs.
Oh la chute! J'allais vous dire, moi, que je voulais vous acheter vidange au bout de la nuit. Vous m'avez supplanté.
Je vous ai devancé sur la chute.
Non, oui, libraire et plombier, presque pareil, quoi.
C'est ça.
Merci Antoine. Et merci à Johan Svar d'avoir joué les Houston pour
merci
cette mission
beaucoup.
Spatiale, parce qu'il y a eu beaucoup You've Got a Problem.
Je suis Winnie Houston.
On va vous présenter Antoine de la librairie Michel à Fontainebleau. Votre adaptation en bande dessinée du Petit Prince est disponible aux éditions Gallimard. Je signale aussi la parution prochaine du très attendu nouveau tome, le 11e, des aventures du chat du rabbin aux éditions d'Argo. Ça s'appelle La Bible pour les chats et ce sera en vente dès le 26 novembre.
Et c'est vraiment une étude de la Bible.
Et j'en suis sûre, après l'ange, le texte biblique. Merci Constance, Liliane Roudière et Cécile Coulon. Merci à Stéphanie Texier, à la réalisation Fanny Leroy, en charge de programme, à la technique Nicolas Delmas. Bonne semaine, n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié, bien sûr. À dimanche prochain, on vous embrasse.